ses salutations à beaucoup de personnes. On avait vu un peu mieux qui étaient ces personnes, quelle relation il avait avec ces personnes. Et on avait aussi pris un peu de temps pour découvrir aussi au travers de ça comment était organisée l'Église à cette époque-là, dans l'Église à Rome. Romains chapitre 16, à partir du verset 17. Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Verset 21, Timothée, mon collaborateur, ainsi que mes compatriotes Lucius, Jason et Sosipater vous saluent. Moi, Tertius, qui écris cette lettre, j'ajoute mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Vous salue encore Gaius, qui m'offre l'hospitalité et chez qui se réunit toute l'Église, Eraste, le trésorier de la ville, ainsi que le frère Quartus. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous propose qu'on puisse commencer aujourd'hui en regardant ce que Paul dit par rapport à ceux qui peuvent semer dans l'Église la division. Et Paul va donner une première exhortation au verset 17. Et qu'est-ce qu'il dit aux chrétiens qui sont à Rome ? Oui, il les met en garde par rapport à quoi ? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, il dit effectivement qu'il faut s'éloigner des gens qui pourraient s'opposer à l'enseignement qui a été reçu. Effectivement, comme disait Georges, il y a une mise en garde. Et dans quelle situation est-ce qu'on met quelqu'un en garde ? Quand il y a un danger, effectivement. Et Paul commence ici en montrant que les gens qui viennent et qui sèment la division, eh bien, c'est un danger. Et on n'a pas toujours cette notion-là que les gens qui viennent avec un évangile qui est faux, qui est différent de ce qui a été enseigné par les apôtres, eh bien, c'est un danger. La division et l'égarement, ce sont des dangers. Ce n'est pas juste que ce sont des erreurs qui seraient dommageables. On fait tous des erreurs, on peut tous parfois se tromper, et on n'est pas encore à l'état de personne entièrement parfaite et totalement accomplie. Ce sera qu'auprès du Seigneur qu'on sera comme ça. Donc, on peut toujours parfois se tromper ou dire des choses pas tout à fait correctes ou des choses comme ça. Mais ici, Paul traite autre chose. Paul, il dit que, il leur dit, je vous engage instamment, donc Paul est très pressant dans sa recommandation, je vous engage instamment, chers frères, donc c'est chers frères et chères sœurs, hein, à prendre garde à ceux qui sèment la division et l'égarement et égarent les autres, pardon, en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Donc Paul, effectivement, les met en garde parce qu'il y a un risque, il y a un danger qui est réel pour les églises, et ce danger qui est réel pour les églises, eh bien, ce sont ceux qui viennent et qui apportent la division et qui égarent les autres en s'opposant à l'enseignement qui a été reçu par les chrétiens de l'église de Rome. Jésus avait aussi parlé des faux enseignants. Et est-ce que vous vous souvenez ce que Jésus a dit, et où est-ce que vous vous souvenez, où est-ce qu'il en parle ? Ce n'est pas Jésus dans Galates, mais Paul en parle dans Galates, effectivement. Allez, quand même, c'est facile. C'est vers le début, je vous aide, de l'évangile de Matthieu. Ouais. Ouais. Plus précisément encore dans Matthieu. Dans Matthieu au début. Oui, il y a plus que juste dans Matthieu ou autre. Mais, ouais, tu veux bien le lire si tu as le passage exact ?
Dans Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des des charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Oui. Merci Samuel pour cette lecture. Qu'est-ce que Jésus dit ici sur les faux prophètes, sur les faux enseignants, sur les gens qui égarent? À quoi ils ressemblent? Plus fort? Ils ressemblent à quoi? Ça a été dit. Hein. Ils ressemblent à des brebis, effectivement, on pourrait dire qu'ils se déguisent. Ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau. Alors l'agneau, en plus, c'est... si vous voyez un agneau, je ne pense pas que vous allez courir, partir en courant. Peut-être si vous voyez une vipère ou ne serait-ce qu'un autre animal un peu plus dangereux, vous partirez, mais un agneau, ça fait peur à personne. Et Jésus dit, les faux prophètes, ils viennent vers vous et ils se donnent l'apparence d'agneau. Ils ressemblent à des agneaux, on dirait des agneaux. Mais qu'est-ce que Jésus dit qu'ils sont en réalité? Des loups féroces. C'est pas juste c'est pas anodin ce qu'ils font. Ce sont des loups féroces, ce sont des personnes dangereuses, et les loups féroces, ils pourraient dévorer leur proie finalement, mais ils se font passer pour être pour des agneaux finalement. Mais Jésus dit, ce sont pas des agneaux. Ce sont des loups féroces, des loups dangereux, des loups qui font des choses qui sont dangereuses et qui mènent à des choses mauvaise. Et Jésus dit, mais ces personnes-là, on les reconnaît à leurs fruits. Paul, il dit que ceux qui sèment la division et qui égarent les autres, mais ce ne sont pas des chrétiens qui se trompent. Ça arrive que des fois, en tant que chrétien, on puisse se tromper sur certaines choses. Mais ici, il n'y a même pas de doute à avoir. Paul leur demande de faire attention à ces personnes-là parce que ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens qui s'en donnent l'apparence. Ils ressemblent à des agneaux. Et bien entendu, la ressemblance, elle est tellement frappante que parfois on pourrait se faire avoir. Mais en même temps, quelqu'un qui veut réussir son coup, il ne va pas, faire un déguisement un peu nul où on arrive et on voit « Ah bah oui, c'est un loup, ça se voit ». Il faut être attentif, il faut être prudent parce que ceux qui viennent à nous comme des agneaux, ils réussissent très bien leur coup et ils ressemblent vraiment à des agneaux. C'est pour ça qu'on doit faire preuve de vigilance. Parce que si la supercherie était facile à dénoncer, il n'y aurait pas de risque, donc on n'aurait pas besoin trop de faire attention. Si moi, demain, je vois un chien passer devant chez moi, je ne vais pas dire « Oh, c'est un chat !» Non, ça se voit, c'est un chien, il aboie et tout, je ne vais pas me faire avoir. Mais des fois, on pourrait se faire avoir. Parce que des personnes viennent à nous, elles ressemblent à des brebis, elles en ont l'apparence, elles parlent pareil, parfois elles parlent même mieux que les vraies brebis. Mais ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups. Et on doit être conscient de ces choses-là pour qu'on puisse faire attention. Mais qu'on puisse faire attention à quoi, d'après vous? Ouais, à l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous, effectivement. Quoi d'autre encore? À leur discours, leur enseignement, à ne pas se laisser séduire, effectivement. J'aime bien... Pardon. Oui, effectivement, moi j'aime bien ce que dit Georges, de dire qu'il ne faut pas se laisser séduire. C'est amusant, hein, parce que quand on lit la Bible, on ne va pas spécialement dire « Ah, le Seigneur m'a séduit par sa parole ». Mais là, on nous dit qu'il faut faire attention, parce que ces gens qui sont là, et qui ressemblent à des agneaux, mais qui n'en sont pas, par leurs paroles, par leurs enseignements, par leur manière de faire, il y a une espèce de séduction qui va s'installer. Et ça va nous plaire, ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention parce que, comme ça a été dit, effectivement, leurs enseignements qui sont faux, ils peuvent avoir des répercussions sur nous. Parce qu'on peut se mettre à croire que c'est vrai et s'attacher à des choses qui sont fausses. Paul, il dit qu'ils amènent la division. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi la division, en dehors des choses mathématiques? La division sans doute amène à la désobéissance à Dieu parce qu'on ne reste pas vraiment attaché à lui. Mais si je vous dis, là maintenant, divisez-vous en deux groupes, il se passe quoi? Voilà. Il y a une division quand les faux enseignants, les personnes qui donnent de faux messages, qui sont de faux prophètes sont là, il y a une division, il y a une séparation. Il y a une séparation en deux groupes, entre ceux qui vont croire ce que disent ces personnes et ceux qui ne vont pas croire ce que disent ces personnes. Et en général, ceux qui se font avoir, c'est qui ? C'est les plus faibles. Et on sait aussi que dans l'église de Rome, il y en a qui sont plus faibles sur certaines questions. On l'a débattu plein de dimanches. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler quoi et où est-ce que ça se trouve. Mais on voit que dans l'église à Rome, il y a aussi des gens qui sont plus faibles dans certains domaines. Et ils pourraient se faire avoir par des personnes qui viendraient et qui leur diraient « Mais non, effectivement, il faut continuer de se priver de certaines choses. Il faut continuer de faire certaines fêtes. Parce qu'il faut mettre ça en plus de Jésus. » Et c'est ce que reproche Paul aux faux enseignants dans les Galates, c'est qu'ils ajoutent des choses en disant le salut en Christ, ça ne suffit pas, il faut mettre des choses en plus du salut. Et forcément, ben, les moins bien affermis, c'est eux qui vont se faire avoir. Les plus faibles, les plus jeunes dans leur foi, c'est eux qui sont les premières cibles, parce que c'est eux qui connaissent le moins de choses de la parole. Et c'est, enfin, faut pas en être gêné, c'est normal. On a tous été des enfants dans la foi. Oui, Samuel. C'est toujours pareil.
Il y a presque rien de plus morcelé que les églises de Jésus-Christ, en fait. On a tellement de divisions, tellement de... Enfin, vraiment, le malin a énormément travaillé là-dessus. C'est difficile, en fait, de résister à la division.
Ben, ce qui me semble être plus dangereux, même si c'est vrai que... Enfin, je trouve quand même qu'aujourd'hui, notamment avec les initiatives nationales comme le CNEF, les églises qui ne sont pas forcément de même dénomination, je dirais, arrivent quand même maintenant à avoir des bons rapports et des bonnes relations. Je pense que de toute façon, juste d'un point de vue humain, on n'arrive jamais vraiment à un plein accord sur tout, dans tous les domaines. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment des choses qui se font maintenant dans le paysage évangélique en France, notamment, je ne connais pas forcément mieux dans les autres pays, mais où on voit quand même que les gens de diverses dénominations arrivent à travailler maintenant ensemble, etc. Et je pense que le CNEF fait aussi un bon travail là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut rester sensible au risque aussi qu'on ne se divise pas entre chrétiens. On peut avoir des points de vue un peu différents sur certaines choses, tant que ce n'est pas des choses fondamentales comme la divinité de Jésus, des choses comme ça. Je pense qu'on peut accepter qu'il y ait peut-être certaines sensibilités qui soient plus exacerbées chez les uns et d'autres plus chez les autres. Mais ici, je crois ce qui est vraiment important, et je crois que nous, par contre, on est vraiment enclin à ce genre de choses, c'est que Paul dit qu'il faut se séparer des gens qui sont des faux enseignants parce qu'ils viennent, ils mettent la division, ils apportent l'égarement. Et je me rends compte, je le vois, que aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on voit plein de choses, on écoute plein de choses, on prend plein de choses et on les prend toutes pour argent comptant. Ça nous plaît, ça nous fait du bien, ça correspond à ce qu'on aimerait entendre, peut-être même ici, et on se dit, ah ben, ça c'est bien, ça je le prends. Et on ne fait pas preuve de discernement. On n'examine pas les choses. Et ça, je crois que c'est un risque pour nous. Les faux enseignants, ils viendront peut-être pas jusque dans l'Église, mais ils peuvent s'immiscer dans nos vies quand on les écoute d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais vous lancer un message, un conseil que je vous donne. Et je le donne à moi en premier aussi. Faites attention à ce que vous partagez sur Facebook, ce que vous partagez sur WhatsApp, ce que vous partagez dans des réunions peut-être ou autres, ou quand vous vous retrouvez. Je ne dis pas que tout ce que vous allez partager, c'est faux. Hein. Mais soyons prudents. Parce que si on est trop rapide à partager ou à dire des choses, on peut peut-être partager ou dire des choses qui ne sont pas justes. Et on est responsable de ces choses-là aussi. Jacques, il dit, il ne faut pas parler trop vite. Parce que quand on parle trop vite, il y a un risque. Alors on sait que les prédicateurs auront à rendre compte devant le Seigneur de tout ce qu'ils enseignent. Mais quand je prends la parole et que je suis par exemple à la louange, ou quand je suis à la présidence, ou quand je fais de la minute des enfants, ou quand je suis à l'école du dimanche, ou en réunion de prière le mardi soir, quand je dis quelque chose, ça a aussi une valeur importante d'enseignement. Et si on dit que des sottises, alors bien entendu, ce n'est pas du tout la majeure partie des choses, ça peut arriver qu'on se trompe un peu sur certaines choses, mais on fait aussi confiance au Seigneur pour nous guider dans la vérité. Mais il faut qu'on soit bien conscient aussi que ces choses-là, elles sont importantes et qu'on doit faire aussi attention à ce qu'on partage dans ces moments-là. Paul dit qu'il y a l'égarement qui vient aussi. Qu'est-ce qui vous arrive si vous êtes égaré ? Je ne parle pas forcément d'un point de vue spirituel, juste d'un point de vue général, comme ça. Si vous vous égarez, qu'est-ce qui vous arrive? On se perd. Ouais, on ne comprend plus rien aussi, effectivement. Je me rappelle que quand j'étais en Alsace, j'étais allé à un week-end de formation pour groupe de jeunes, et puis on devait aller dans un petit village tout paumé près de Münster. Si ça se trouve, vous, le Münster, c'est juste le fromage, vous ne savez même pas où c'est. Mais on devait aller là, et puis j'étais allé avec un ami qui était responsable aussi du groupe de jeunes, et puis le GPS arrivait pas très loin en plus de l'endroit où on devait aller. Il nous dit « Tournez à gauche, bah, on tourne à gauche. Tournez à gauche, bah, on tourne à gauche. Tournez à gauche, on tourne à gauche. Tournez à gauche, on tourne à gauche. » Sauf que si tu tournes quatre fois à gauche, tu fais un carré et tu reviens là d'où tu viens. Et on était complètement paumés, on savait pas du tout où aller. Et Paul, il dit, quand il y a des personnes qui viennent et qui enseignent des choses qui sont fausses, eh ben, au début, on est sur le bon chemin. Et finalement, eh ben, on se perd et on ne sait plus où il est le bon chemin. On s'égare. On ne sait plus où aller et on ne sait plus comment y aller. Et les faux enseignements, c'est dangereux parce que ça nous égare, ça nous enlève du chemin sur lequel on était qui était bon et ça nous met sur un chemin ailleurs qui n'est pas celui sur lequel Dieu veut qu'on soit. Et c'est pour ça que Paul, il dit qu'il les engage instamment. Il faut que les chrétiens soient attentifs tout de suite, maintenant, d'une manière sérieuse. Parce que sinon, il risque d'y avoir une séparation dans l'Église. Il y en a qui vont se faire entraîner sur un chemin qui est mauvais et qui vont, d'une certaine manière, se perdre parce qu'ils vont recevoir des enseignements qui ne sont pas vrais. Paul dit « Éloignez-vous d'eux », c'est la fin du verset 17. « Car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. » Du coup, Paul y dit que ces gens-là, ils donnent l'impression de servir qui? Ils donnent l'impression qu'ils servent le Christ, qu'ils servent le Seigneur. Et c'est logique, parce que sinon on ne les écouterait pas si on avait l'impression qu'ils servent quelqu'un d'autre. Mais Paul y dit, en réalité, ils servent qui, ces gens-là? Eux-mêmes. Et l'image est assez, moi, elle me fait un peu sourire des fois, mais ils servent leur ventre. Ils cherchent à se nourrir eux-mêmes par les choses qu'ils enseignent. Ils cherchent pas à nourrir les autres. Ce qu'ils cherchent, c'est pour eux-mêmes qu'ils le cherchent. Ils ne le cherchent pas pour le Seigneur. Ils le cherchent pour eux-mêmes. Et à la fin du verset 17, Paul, il dit qu'ils sèment l'opposition et la division et l'égarement en s'opposant à l'enseignement qui a été reçu. Oui, Georges, pardon. Je pense que, alors je me doutais qu'on allait me poser cette question, du coup j'y ai réfléchi, tant mieux. je pense qu'il y a un aveuglement chez ces personnes. Je ne suis pas sûr qu'elles se fassent consciemment ou entièrement volontairement porteuses d'un faux message, mais je pense que l'ennemi peut les utiliser justement en leur faisant croire qu'ils ont bien compris le message de l'Évangile et qu'il les amène justement dans les églises en leur disant « mais toi, tu as mieux compris le message de l'Évangile que les autres, toi, tu sais mieux, etc. » Du coup, va pour éclairer finalement ceux qui sont dans les églises et qui se trompent. Et du coup, l'ennemi les utilise pour faire ça. Alors, je ne suis pas tout à fait certain qu'ils se rendent compte de la subtilité. De toute façon, s'ils s'en rendaient compte, ils s'arrêteraient. Mais je pense que l'ennemi utilise ces personnes pour semer la division et faire du mal aux églises. Je pense que les personnes ne sont pas forcément entièrement consciente de ça, parce que je pense qu'elles pensent sans doute être de bonne foi, mais en attendant, elles ne sont pas rendues innocentes de leurs actes pour autant. C'est ce que je dirais, mais j'avoue que je trouve que c'est une question pas simple, parce que je n'ai jamais été dans leur position, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais que l'ennemi sait très bien utiliser des personnes qui ressemblent aux chrétiens pour justement diviser et égarer ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur. Et je pense que c'est tout à fait typique de ce que fait Satan, parce que quand il est venu dans le jardin, il n'a pas fait peur à Ève. Hein. Il est venu avec gentillesse pour lui dire « Mais non, mais je t'apporte un message qui est bon, qui est meilleur que celui de Dieu. Hein, parce que Dieu ne veut pas que vous deveniez à votre plein accomplissement. Hein, mais si vous mangez du fruit, vous allez devenir comme des dieux. Moi, je le dis pour votre bien. Hein. » Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec les faux enseignants. L'ennemi utilise le même stratagème parce qu'il n'a pas changé. Donc, il se fait toujours passer pour celui qui apporte quelque chose de mieux que ce que le diable, que ce que Dieu veut nous donner. Oui. Ouais, c'est pour ça que je dis que je trouve que la question n'est pas si facile. C'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est pour ça que je dis que je trouve que la question est difficile à traiter, parce que la Bible, en fait, donne peu d'éléments pour savoir s'ils sont pleinement conscients ou pas, ou un peu conscients ou pas. Je ne sais pas. Est-ce que, Roger, peut-être tu voudrais peut-être amener un autre élément, comme tu as plus d'expérience que moi?
La majorité, je pense, s'ils ne savent pas exactement, mais si quelqu'un s'il joue un jeu, disons, de séduction, la séduction, c'est quand même qu'on essaye de tirer son avantage, de se concentrer sur eux-mêmes.
C'est vrai. C'est vrai.
Et dans le sens, ils ne veulent pas être honnêtes avec eux-mêmes dans ce qu'ils sont. Et il y a de l'orgueil, il y a beaucoup de choses. Alors après, c'est le gars qui me dit, c'est clair.
C'est vrai, ouais. Oui. C'est vrai. Merci,
et
Roger.
Vraiment honnête avec Dieu, et Dieu l'éclaire. Il nous sommes, quoi.
C'est vrai, ouais. Ouais. Et... Ah, pardon. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Ouais. Oui. Je suis désolé, j'entends pas. Tu peux juste parler plus fort. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu veux le lire? Ouais, donc on voit en tout cas bien ici dans cet exemple-là que ces personnes, elles sont tenues pour responsables et que la parole, Dieu par sa parole de tout temps a prévu un châtiment pour ceux qui font ce genre de choses-là. Donc ils ne sont pas innocentés parce que l'ennemi les utiliserait, en tout cas. Je vous propose qu'on puisse continuer dans la suite de Romains 16, que je vais retrouver du coup. Et Paul dit en tout cas que ces personnes-là, elle s'oppose à l'enseignement que les Romains ont reçu, l'enseignement des apôtres. Et du coup, ce qui est grave aussi chez ces personnes-là, c'est que c'est pas juste qu'elles vont peut-être s'opposer à l'Église ou aux autorités qui sont dans l'Église ou à son fonctionnement et tout ça, mais ceux à qui est-ce qu'elles s'attaquent vraiment finalement en s'opposant à l'enseignement? Ces personnes-là, elles s'opposent à Dieu. Ces personnes-là, elles viennent avec un esprit qui se dit que ce qui est enseigné dans les églises, c'est faux, c'est pas juste. L'enseignement qui a été apporté par les apôtres à cette époque, il n'est pas bon. Et du coup, elle s'attaque à l'enseignement que Dieu lui-même a donné aux apôtres de transmettre. Et du coup, finalement, elles font quelque chose qui est entre guillemets suicidaire, c'est qu'elles s'attaquent à Dieu lui-même. Peut-être que ces personnes-là ont l'impression qu'elles s'attaquent à des institutions humaines, mais en réalité, c'est à Dieu qu'elles s'opposent, parce qu'elles s'opposent à l'enseignement. Et l'enseignement que les apôtres ont apporté, il était entièrement bon et il répondait à l'envoi que Christ a fait à la fin de son ministère terrestre, où il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc quand des enseignants viennent et s'opposent à l'enseignement des apôtres, ils s'opposent finalement à Dieu lui-même. Oui. Oui, ah oui, bien entendu. Oui. Je pense que c'est tout à fait blasphématoire de vouloir apporter une révélation supplémentaire que ce qui a été apporté par les apôtres. Parce que ce qui a été donné aux apôtres, c'est Dieu qui le leur a donné. C'est lui qui les a enseignés pour qu'ils le fassent. Il leur a donné l'ordre de l'amener. Et si c'est consigné pour nous dans les Écritures, c'est que ce qui est dit, c'est la vérité. Et que du coup, c'est entièrement bon et il n'y a pas besoin de rajouter des choses en plus. Comme on discutait un peu quand on s'est vu jeudi, le problème chez les Galates, par exemple, c'est qu'ils disaient il faut le salut en Christ, mais il faut la circoncision et il faut l'observance de certains jours. Du coup, ils disaient finalement ce que Jésus a fait, ça ne suffit pas. Et c'est un blasphème de dire que ce que Jésus a fait, ça ne suffit pas. Parce que ce n'est pas vraiment le sauveur si ça ne suffit pas. Et si ça ne suffit pas, c'est qu'il n'est pas vraiment Dieu. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est pleinement suffisant. Donc oui, je pense qu'on peut voir ça comme un blasphème. Et du coup, Ben, Paul, qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire face à ces gens-là, finalement ? Effectivement, il dit qu'il faut qu'ils s'éloignent d'eux. Éloignez-vous d'eux, c'est un impératif. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Et Paul étant un apôtre, ses ordres ont valeur de commandement. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre, ça on l'a vu. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Paul il ne dit pas ces gens-là, il faut essayer de les convertir. Paul ne dit pas non, mais il faudrait être un peu souple, parce qu'en fait, ils se trompent. C'est juste qu'ils ne sont pas encore bien affermis. Du coup, il ne faut pas les chasser, parce que sinon, ils ne pourront jamais être affermis. Paul ne dit pas ça. Alors après, bien sûr, on fait aussi la différence entre les chrétiens mal affermis et les gens qui sont mal intentionnés. Et c'est différent, et ça se voit. Mais Paul, il ne dit pas, entre guillemets, il faudrait laisser la gangrène parce que peut-être que finalement, elle va finir par être guérie et puis elle ne va plus rien gangréner. Paul, il prend très, très, très au sérieux le risque qui est apporté par ces gens. Et du coup, il ordonne la séparation avec ces personnes-là. Il dit, hein, c'est un impératif, je répète, mais il dit, éloignez-vous d'eux. C'est un ordre, il faut le faire. Alors bien sûr, on peut avoir un temps où, entre guillemets, on teste, c'est pas le bon mot, mais on éprouve, voilà, c'est un mot meilleur, on éprouve les personnes pour savoir qui elles sont vraiment et quel est l'esprit qui est derrière eux finalement. Mais si on voit que c'est pas l'esprit du Seigneur et que ces personnes-là ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, bah, ça sert à rien de dire, mais on le garde quand même parce qu'il va peut-être finir par se convertir. Paul, il dit, ces gens-là, ils sont dangereux, faut les mettre dehors, c'est une question de vie ou de mort de l'Église. S'il y avait un virus mortel dans votre maison, bah vous le mettriez dehors, vous attendriez, vous ne seriez pas en train de vous dire un jour peut-être il ne sera plus un virus mortel et tout ira bien. Bah non, vous le mettriez dehors. Bah c'est exactement ce que dit Paul. Paul, il est très 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 sérieux avec ce genre de choses-là. Paul est très sérieux avec l'enseignement qui doit rentrer dans l'Église. Parce que s'il y a quelque chose d'autre que l'enseignement des apôtres qui rentre, eh bien on s'attaque à Dieu. Et c'est très 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 dangereux parce que Paul dit... Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. L'ennemi, il ne va pas s'attaquer à ceux qui sont les plus forts. Il s'attaque à ceux qui sont les plus faibles. Et c'est pour ça aussi que Paul met cet empressement à chasser ces personnes-là, parce qu'elles peuvent happer les plus faibles. Parce que leurs discours sont flatteurs. Parce que leurs paroles sont belles. Faut toujours se méfier de ce qui a l'air trop beau. Même si le message de la grâce, c'est trop beau, entre guillemets, mais lui, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Oui, Christophe. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, oui. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Non, tout à fait, effectivement. Et puis, je pense que dans la suite, vu que c'est à la suite du chapitre 14 notamment, Paul aussi, je pense, lance là un appel à faire attention justement aux plus faibles dont il a déjà parlé avant, pour que, comme tu dis aussi, ben, il fasse attention aux plus faibles. Mais comme tu rappelles aussi, et qui est important aussi, ben, quand on est debout, on n'est pas en sécurité dans le sens où on peut aussi tomber à un moment. Donc, on est tous appelés à faire attention, mais on doit faire encore plus attention à ceux qui sont les plus faibles. Et si le Seigneur nous donne aussi à certains d'entre nous d'être plus avancés dans la foi, ben c'est aussi pour qu'on s'occupe de ceux qui sont moins avancés aujourd'hui dans la foi et qui ne s'égarent pas justement. Mais en tout cas, si le Seigneur ici nous dit dans sa parole qu'il faut se séparer de ces gens-là, alors il faut le faire. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile ou agréable ou autre, mais il vaut mieux passer par une période peut-être d'incompréhension ou un peu de difficulté, mais qui mène ensuite au fait qu'on a fait partir ceux qui amenaient de faux enseignements, plutôt que de ne pas vouloir créer des mules et de garder des faux enseignants qui détruiront l'Église à la fin. Et je crois qu'on est aussi appelé, alors, enfin, je pense qu'il faut vraiment, on a vraiment besoin, avec le conseil aussi de vous, de vos prières, de votre soutien. Parce qu'il y a des cas qui arrivent des fois, il y a des décisions des fois qu'on doit prendre et qui ne sont pas très simples à prendre. Et notre désir, et je suis sûr que c'est le vôtre aussi, ben, c'est que l'Église marche selon ce que Dieu veut pour elle. Et des fois, ça te demande de prendre des décisions pas facile. Où on se dit, ah ben si j'avais pas à le faire, ce serait mieux. Et du coup, on a vraiment besoin aussi que vous, vous priez pour nous. Que vous nous souteniez aussi par la prière, parce qu'on veut vraiment rester fidèle à Dieu. Et rester fidèle à Dieu, des fois, ça demande de prendre vraiment des décisions radicales. Et on a besoin d'être soutenu au travers de vos prières par le Seigneur aussi pour ce genre de choses. Et pour que nous aussi, à la fois vous mais nous, à qui on a quand même donné une tâche particulière, ben qu'on puisse vraiment rester éveillé, attentif, et que nous, on puisse mettre en garde Moi, je suis votre berger et je dois prendre soin de vous. Et j'ai besoin que le Seigneur me renouvelle pour que je puisse prendre bien soin de vous. Que je ne me fasse pas avoir. Que je ne me fasse pas attraper. C'est pour ça aussi que je disais à Roger, ben, est-ce que tu veux donner ton avis sur cette situation? Parce que toi, tu as plus d'expérience. Je sais que je suis jeune. Mais je sais aussi que je peux vous faire confiance au Seigneur qui répondra aux prières aussi que vous ferez pour moi, auprès de lui. Mais on a besoin vraiment de votre soutien pour qu'on puisse vraiment mener l'Église comme Dieu veut qu'on l'amène. Et si Dieu ne nous aide pas, on va faire n'importe quoi avec l'Église aussi. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Très loin de là. Paul dit que les faux enseignants, ils ne servent pas le Christ. Oh, pardon, je ne t'avais pas vu.
En dehors des loups qui peuvent venir dans des assemblées, aujourd'hui, avec le fait qu'on peut rapidement échanger d'une assemblée à une autre, d'un continent à l'autre, un membre d'une assemblée peut écouter une prédication ou aller rendre visite à une autre assemblée et être intéressé par le message qui a été prêché, qui a été donné là-bas, et qui n'est pas forcément un enseignement selon le Seigneur biblique, et venir par la suite, non pas que c'est un loup, mais le partager aux autres, parce que ce n'est pas un front de bord.
Oui.
Face à cette situation, comment réagir? Parce que là, c'est le fait que un des membres ou plusieurs
Je pense que dans ce cas-là, déjà, il faudrait pouvoir entendre nous-mêmes ce qu'eux ont entendu pour avoir une base de discussion, je dirais, qui soit, entre guillemets, sérieuse, qu'on puisse savoir ce qu'ils ont vraiment entendu, qu'on leur demande qu'est-ce qu'eux en ont pensé, pourquoi est-ce qu'ils adhèrent à ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, et ce que je ferai ensuite, alors c'est très pratique, mais je reprendrai la parole avec eux. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut les convaincre de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai. Et je pense qu'en tout cas, après je discernerai, j'essaierai aussi, et je pense que c'est ce qu'on doit faire aussi en tant qu'Église, mais de discerner est-ce que ces gens-là sont de bonne foi finalement quand ils partagent ça ou autre, ou bien est-ce que dans leur manière de faire, ils essayent finalement de se dire « Ah ben moi, finalement, j'ai vraiment la vérité et je vais l'amener parce que on ne prêche pas la vraie vérité dans mon Église ». Il y a la différence. On peut être séduit parce qu'on entend des choses qui nous plaisent et on n'a peut-être pas le recul ou pas la maturité pour faire l'étude de ça. Puis je dirais surtout, c'est des choses aussi que ces personnes-là, elles devraient aussi soumettre à leur pasteur pour savoir ce qu'il en pense. Moi, ou même aux anciens de l'Église ou autre, mais je pense qu'on est une famille et dans une famille, on discute, on échange, on partage. Si quelqu'un va dans une autre Église, entend quelque chose qui lui fait du bien, c'est bien. Si c'est selon la vérité de la parole, c'est très bien. L'Église, c'est pas juste ici. Les enseignements, c'est pas juste moi et les autres prédicateurs. Mais je dirais qu'il faut être, prêt aussi à se dire, c'est bien que j'échange avec d'autres pour aussi avoir leur avis et voir ce qu'ils en pensent. Et puis, je pense après aussi que faut demander aussi au Seigneur de nous dire, donne-moi la sagesse, le discernement, pour que moi, je puisse me rendre compte si c'est bien ou pas ce que j'entends. Moi, ce qui me fait plaisir quand je fais des fois des rendez-vous ou autres avec des personnes, c'est quand je peux discuter, ou même quand je discute des fois avec ma famille ou mes amis, c'est qu'ils me disent « Ah ben, j'ai lu ça ou j'ai entendu ça, mais en confrontant avec d'autres choses de la parole, j'avais l'impression que ça n'allait pas trop bien dedans. » Et je me disais « Merci Seigneur qu'on a encore cette réaction de se dire « Comment est-ce que ça s'articule avec le reste de ce que je sais de la parole ?» Puisque tout va ensemble. Est-ce que ce que j'entends là, ça va avec le reste de ce que j'ai entendu finalement, ou pas? Et je pense que c'est bien aussi de pas tout prendre comme argent comptant, mais de regarder aussi ce que dit la parole pour savoir si c'est vrai. Et je veux dire, ça doit être fait aussi dans notre église ici, quand Christophe prêche, ou quand c'est moi, ou quand c'est toi, ou quand c'est Stéphane. Voilà. Regardez à la lumière de la parole si ce qu'on vous dit, c'est vrai. Parce que s'il se trouve en plus qu'on se soit trompé en disant quelque chose, il faut que quelqu'un nous le fasse savoir aussi, pour qu'on puisse le dire devant l'Assemblée et qu'on puisse rectifier. Donc je dirais qu'il y a ce risque que des gens viennent directement dans l'Église, et comme tu dis, il y a aussi un risque qu'en entendant plein de choses du dehors, on les ramène dans l'Église et que ça puisse faire des dégâts plus ou moins importants. Mais je pense que notre tâche vis-à-vis de la parole, quel qu'on soit prédicateur, pas prédicateur, peu importe qui on est, c'est de confronter à l'Écriture pour savoir si ce que j'ai entendu, c'est vrai. Et ça, c'est une tâche qu'on doit tous faire, que l'enseignement qu'on ait reçu soit effectivement vraiment bon et vraiment vrai, ou qu'il ne le soit pas. On doit toujours confronter à la parole ce qu'on entend. Oui, donc, Paul disait que, je vais juste regarder l'heure, ouais. Paul disait que les faux enseignants, ils ne servent pas Christ, ils se servent eux-mêmes. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est leur propre gloire. Et en général, d'ailleurs, les faux enseignants ne vont pas avoir tendance à faire rester les gens dans l'église, ils vont avoir tendance à les faire sortir de l'église. Leurs enseignements, ils peuvent ressembler à la vérité. C'est pour ça qu'on doit être aux aguets. Et si ce n'était pas le cas, ben, il n'y aurait personne qui tomberait dans le panneau. Du coup, ça ne fonctionnerait pas ce qu'ils font. Et du coup, Dieu ne nous mettrait pas en garde. Les enseignements qu'ils amènent, ils se veulent théologiques. Ils se veulent ancrés dans la parole. Mais Paul dit, ils ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Il y a des apparences de piété. Ils veulent faire bonne figure devant les hommes. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, au verset 12. Ils essayent de faire bonne figure devant les hommes. Mais ce n'est pas Dieu qui servent. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu dans ce qu'ils font, ils cherchent leur gloire à eux, personnelle. Et ce que j'ai remarqué, moi, dans ce que j'ai connu de ce genre de choses, c'est que souvent, ces personnes-là se veulent, entre guillemets, très littérales. Ah, la Bible dit ça noir sur blanc, du coup, il suffit juste de prendre ça noir sur blanc. Si c'était vrai, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole. Il suffit de faire les choses noir sur blanc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont littérales et que le Seigneur nous dit comme ça et qu'il faut les faire comme ça. Mais il faut se méfier de ceux qui ont toujours réponse à tout et qui vont juste dire « Ah ben, la Bible, elle dit juste exactement ça, donc on va faire juste exactement ça. » Je pense que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible dans son ensemble, dans toute sa révélation, dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse. Mais c'est aussi un des traits caractéristiques, je trouve, de ceux qui sont de faux enseignants, c'est qu'ils auront tendance à dire « Ben non, il suffit juste de faire comme ça. » Moi, je reconnais... Personnellement, je le fais en toute humilité, mais je reconnais que bah, y a des choses qui ne sont pas si simples que de juste dire c'est comme ça. Et que je reconnais que j'ai besoin du Seigneur pour m'aider à donner des bons conseils, à prendre des bonnes décisions, à savoir quoi dire, quoi penser. Il ne suffit pas d'asséner des coups de Bible sur la tête des gens pour que ça marche. Dieu veut qu'on aime les gens. Les faux enseignants, ils se servent eux-mêmes. Même si on dirait qu'ils servent Dieu, ce n'est pas Dieu qui serve. Mais Paul va continuer avec quelque chose de bien, parce que là, on pourrait peut-être être un petit peu « waouh, quand même, faut être super vigilant et tout ». Oui, faut être super vigilant, mais Paul va dire quelque chose qui est très bien. Il va dire, verset 19, « Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie, mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptible à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Donc Paul dit quelque chose d'extraordinaire, il dit « Ben, leur obéissance aux chrétiens à Rome, elle a été connue de tous. Elle est connue de tous. Tout le monde connaît votre obéissance, elle est connue de tous. C'est génial. Paul, il a quand même dit plein de trucs un peu négatifs dans sa lettre au début. Il y a beaucoup de choses qui peuvent un petit peu nous laisser penser que ben, la vie chrétienne n'est pas si simple. Mais Paul dit, je connais votre obéissance. Et tout le monde, en plus, la connaît. Elle est connue de tout le monde. Mais Paul, il dit quoi? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit qu'ils soient obéissants comme ça? Ouais, ça suffit pas. Paul, il veut plus que pour ça, que ça. Il dit, votre obéissance, elle est connue de tous, et ça le remplit de joie, il est vraiment heureux de cette obéissance à la parole de Dieu. Hein. Mais il dit, je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptible à l'égard du mal. Paul, il dit, vous êtes obéissant, c'est bien. Et vous êtes vraiment obéissant parce que votre obéissance, elle a été portée à la connaissance de tous ceux qui sont autour de vous. Donc, une obéissance qui se voit... chez tous ceux qui sont autour de nous, c'est que c'est une vraie obéissance. Moi, j'aimerais bien que tous mes voisins se rendent compte de mon obéissance à Dieu. Alors, je ne sais pas comment je peux faire encore aujourd'hui, mais je sais que Dieu peut tout à fait me permettre de vivre ça. Mais Paul dit, ça ne suffit pas, en fait. Il y a autre chose que je veux pour vous. Et qu'est-ce qu'il veut pour eux, en plus de l'obéissance? Effectivement. Paul, il dit, votre obéissance, elle est connue, mais je désire que vous sachiez, premièrement, discerner le bien. Donc, discerner le bien, c'est aussi par rapport aux faux enseignements qu'on entend. Et si Paul a ce désir-là, c'est que ce n'est pas si simple ou si naturel que ça au premier abord, parce que Paul veut que ce soit ça. Paul, il ne leur dit pas, j'aimerais que vous respiriez tous les jours pour ne pas mourir, parce que c'est naturel, ils le font, donc il ne leur dira jamais ça. Mais s'il leur dit qu'il veut qu'ils discernent le bien, c'est que ce n'est pas si simple et ce n'est peut-être pas si inné que ça de discerner le bien et qu'on a besoin de s'y exercer aussi et d'y faire attention. Mais il dit, en plus de savoir discerner le bien, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit en plus? juste avant. Ouais, sans compromission. Que vous soyez incorruptible à l'égard du mal. Que le mal, il puisse rien vous faire. Sous-entendu, que le mal ne puisse pas vous perdre, ne puisse pas vous égarer, ne puisse pas vous diviser. Qu'il puisse finalement pas vous atteindre, si vous voulez. Paul veut que les Romains sachent discerner le bien. Ça nous renvoie aussi à ce qu'il dit dans Romains 12, verset 2, hein, que vous puissiez discerner la volonté de Dieu par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner ce qui lui plaît, ce qui est bon, ce qui est parfait. Paul veut ça pour les Romains. Et ça passe par le fait de savoir dire non aux faux enseignants et de savoir les mettre dehors. Et en même temps, Paul, il veut aussi, pas juste qu'ils discernent le bien, mais il veut aussi qu'ils tiennent fermement devant le mal. Paul veut que les Romains ils soient incorruptibles, que le mal ne puisse rien leur faire, qu'il ne puisse pas les toucher, qu'il ne puisse pas les corrompre, qu'il ne puisse pas les rouiller ou faire des trous comme les mythes dans des habits ou autre. Il ne veut pas que le mal puisse leur faire quoi que ce soit. Il ne veut pas que les Romains se fassent avoir par les faux enseignants et les faux enseignements qui viennent avec. Oui, vous êtes obéissant, c'est bien, mais vous devez faire plus. Vous devez faire plus. Vous devez entièrement discerner le bien et entièrement être incorruptible à l'égard du mal. Et c'est ce que Dieu veut pour nous aussi. Hein. Il veut qu'on discerne tout le bien et il ne veut pas que le mal puisse avoir de prise sur nous. Et Paul finit, et on va finir avec lui. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. À quoi ça vous fait penser cette histoire d'écraser Satan sous nos pieds ? À la Genèse. Est-ce que quelqu'un peut me dire la référence ? Ouais, Genèse 3:15. Est-ce que quelqu'un qui l'aurait peut le lire ? C'est la première annonce de l'Évangile dans toute la Bible. Si quelqu'un veut lire Genèse 3:15, ouais, vas-y, je réduis. Exactement. Il y aura inimitié entre ceux qui appartiennent au serpent, ceux qui appartiennent au serpent, et ceux qui appartiennent à la femme, ceux qui sont enfants de Dieu. Dès la Genèse, Dieu dit, il y aura quelque chose qui ne sera pas commun entre vous. Entre guillemets, il y aura quand même une lutte, un combat qui existera. Mais ici, Paul, il dit, le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Il ne dit pas, Dieu ne va pas tarder à écraser Satan sous ses pieds. D'ailleurs, je me suis planté parce que sur mes notes, j'avais marqué ses pieds. Sous vos pieds. Ça veut dire que le chrétien, un jour, sera vainqueur pleinement du mal. Pas par ses propres forces. Ce n'est pas nous qui pouvons défaire Satan. De toute façon, c'est déjà fait. Qui l'a fait ? Et quand ? Voilà, il l'a déjà écrasé. Il est déjà vainqueur. Et il dit, le Dieu qui donne l'après ne tardera pas. Ça veut dire que ça va être bientôt fait. Alors on se dit, bon, le bientôt de Paul et de Dieu, ce n'est pas le même bientôt que nous, parce que ça fait près de 2000 ans. Mais ça va être fait. Oui, Jude ? Oui, vas-y. Effectivement, Jésus a prié pour nous lors de cette prière. C'est assez extraordinaire. En tout cas, je trouve. Mais effectivement, Paul dit, déjà c'est intéressant parce qu'on a beaucoup on a parlé, hein, notamment dans Romains 7, de la bataille entre, enfin, qui reste en nous par rapport au péché. Avec, où Paul il dit, mais moi je ne fais pas ce que je voudrais faire. Et ce que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. On voit qu'il y a encore une lutte qui reste. On n'est pas encore tout à fait... déshabillé de l'ancien homme et on n'a pas encore tout à fait habillé avec les habits du nouvel homme. Il y a un combat, mais Paul dit le Dieu qui donne la paix ne tardera pas, donc Dieu n'est pas en retard, même si peut-être ça nous semble très long, le temps qu'il donne encore à Satan pour faire des dégâts. Mais Paul dit il ne va pas tarder, ça va bientôt arriver. Et comme disait Roger, bah c'est déjà fait de toute façon. Christ, il a déjà vaincu Satan à la croix. La résurrection dont nous a parlé Stéphane ce matin, c'est la meilleure preuve que de toute façon, Satan a perdu. Satan, sa puissance, c'était la mort. Jésus meurt, il se dit, c'est bon, on a gagné. Et là, Jésus se relève et il dit, bah non, raté, même la mort, elle ne peut pas me retenir. Satan a de toute façon perdu. Et il le sait. Et c'est bien parce qu'il le sait aussi qu'il se donne tellement de mal pour perdre tout le monde. Si Dieu, c'était une histoire bidon, Satan, il ne se donnerait pas de mal. Il resterait assis, il dirait, bah, j'attends la fin et vous verrez que vous vous êtes trompé. Mais il sait très bien que c'est vrai, que c'est juste. C'est pour ça qu'il se débat tellement. Oui. C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu encore. Il essaie de nous pousser.
Mais effectivement, Paul dit, enfin, on voit que la victoire, elle existe déjà. Je vais relire avec vous Colossiens 2, les versets 14 et 15. Vous n'êtes pas forcément obligé de chercher, vous pouvez juste écouter si vous voulez. Colossiens 2, les versets 14 et 15, il est dit, alors je vais même commencer un peu avant, au verset 12. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Là, à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Satan a déjà perdu. Il est déjà perdant. Il le sait de toute façon. Mais la victoire, elle sera effectivement pleinement manifeste quand Christ reviendra et qu'il jugera les vivants et les morts. Et que ceux qui ne sont pas chrétiens seront condamnés éternellement et que ceux qui sont chrétiens seront, leur justice sera prouvée encore plus à ce moment-là et on sera avec lui, avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit pour toute éternité. Donc oui, le temps vient où les chrétiens auront la victoire entièrement sur le péché et sur Satan parce qu'on en sera délivré quand on sera auprès du Seigneur. Mais en attendant, de toute façon, on sait qu'on pourra être pleinement vainqueur parce que Jésus est déjà vainqueur. Et que l'union qui nous unit à Jésus-Christ nous fait bénéficier de tout ce que Jésus a fait. Du coup, la victoire de Christ, elle est pour nous parce qu'on lui appartient. Oui, pardon Alexandre. Oui, de toute façon, il est sûr effectivement que l'œuvre des faux enseignants, c'est de faire sortir de l'Église et de perdre ceux qui sont dans l'Église. Et effectivement, on a besoin aussi de se rappeler que Dieu veut qu'on ait l'unité dans l'Église et que ça passe aussi par sa parole. Et c'est pour ça que les faux enseignants prêchent un faux évangile qui décrédibilise la vraie parole. Christ est victorieux. Du coup, par avance, nous sommes nous aussi victorieux, même si on attend pleinement le plein accomplissement de la victoire. Parce que pour l'instant, nous vivons encore la lutte avec le péché. Mais nous pouvons en être vainqueurs parce que Christ a vaincu et a payé pour chacun de nos péchés à la croix. Et du coup, nous n'avons plus à être esclaves du péché dans notre vie. Nous pouvons travailler avec l'assurance que Christ a payé pour chacun de nos péchés et que du coup, il n'y a pas un péché qui, entre guillemets, devrait ou pourrait demeurer éternellement. Nous pouvons et nous serons un jour pleinement libérés de tout péché. Et du coup, malgré les luttes, la grâce qui est manifestée pour nous en Christ... elle est avec nous et elle nous accompagne en toutes choses. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous dans votre vie de tous les jours, soit avec vous dans votre lutte contre les faux enseignants, dans votre lutte contre le péché. Mais nous ne sommes pas laissés seuls dans ces luttes-là. Christ est avec nous, Christ nous accompagne, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Et du coup, lorsque nous menons un combat, nous savons que nous menons un combat dans lequel nous sommes déjà vainqueurs, même si la victoire peut mettre du temps parfois à se dessiner. Parce que Christ, lui, est victorieux pour toute chose à la croix pour nous. Et aujourd'hui, il est vivant, il intercède pour Dieu, il est à la droite de Dieu, et nous pouvons avoir pleinement confiance en celui qui prie pour nous chaque jour. Je vais simplement finir par la prière. Père éternel, je te remercie pour cette espérance que tu nous donnes, que Satan sera bientôt écrasé sous nos pieds, qu'un jour nous vivrons la délivrance pleine et complète de tous nos péchés. Elle est déjà pour nous en Jésus-Christ parce qu'il est mort et ressuscité. Il a vaincu Satan à la croix et Stéphane nous l'a encore rappelé aujourd'hui. Merci aussi parce que tu peux nous rendre pleinement incorruptibles à l'égard du mal. Et je te demande vraiment que chacun dans notre vie personnelle et en tant qu'Église, tu nous gardes du mal, que tu nous gardes des pièges que Satan pourrait mettre sur notre route, notamment au travers de faux enseignants, de personnes qui amèneraient à un enseignement qui ne serait pas conforme à la vérité de ta parole. Je te prie pour que tu nous gardes de cela, pour que tu nous donnes la sagesse et le discernement pour voir lorsque ces choses-là peuvent entrer dans l'Église, pour régler ces choses-là, pour chasser ceux qui pourraient semer le trouble et qui ne voudraient pas se repentir, mais aussi pour ramener sur le bon chemin ceux qui pourraient avoir été abusés malgré eux par des personnes mal intentionnées. Nous voulons vraiment remettre encore une fois toute ton Église entre tes mains. Elle t'appartient, elle est à Jésus-Christ. C'est lui qui en est la tête, c'est lui qui la forme. Et ce que nous voulons, c'est vivre conformément à ta parole qui nous révèle Jésus-Christ. Ce que nous voulons, c'est vivre en conformité avec tes attentes. C'est vivre en conformité avec qui tu es et avec qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Veuille vraiment, Père éternel, nous accorder cette grâce de ton secours, de ton soutien et de ton assistance dans toutes les luttes et dans tous les combats que nous traversons pour que nous puissions vraiment te donner toute la gloire et tout l'honneur qui te sont dus. Je remets vraiment encore le reste de ce week-end, de ce dimanche. Veuille encore nous bénir chacun pour les temps que nous prendrons cet après-midi. Que tu sois à nos côtés et que tu nous accompagnes aussi toute cette semaine avec cette assurance que la grâce de notre Seigneur Jésus est avec nous. Amen. Merci.